J'aime bien les énigmes. Celle de Samson est assez curieuse. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Cette énigme, en fait, est beaucoup plus énigmatique encore qu'elle ne semble. Parce que oui, bien sûr, nous connaissons la solution. Quoi de plus fort que le lion? Quoi de plus doux que le miel? Et donc, nous savons la réponse. Pourtant, cela ne me satisfait pas, et ça reste pour moi quand même très curieux, cette histoire. Parce que d'abord, vous dirais-je, ce qui semble bizarre là-dedans, c'est que c'est une allusion à la propre histoire de Samson. Donc, lorsqu'il trouve un essaim d'abeilles dans le lion, le cadavre du lion qu'il avait tué quelques jours plus tôt. Donc, c'est une allusion à un événement que Samson seul a connu, et je ne vois pas comment les Philistins auraient pu deviner, sachant que c'est très inhabituel que des abeilles s'installent dans un cadavre d'animal. Et donc, je trouve que cette énigme était injuste, si vous voulez. Je ne vois pas comment les Philistins auraient pu trouver cela, puisqu'ils n'avaient pas connaissance de cet épisode. Et je vois encore moins pourquoi les Philistins ne lui font pas le reproche de leur avoir donné une énigme qui, en fait, était pour eux insoluble. Il y a quand même là une sorte de mystère. Voilà qui est bien curieux. Et puis, ce n'est pas que cela. Si c'est seulement là le sens de cette énigme, bon, on pose une question et puis il faut deviner dans les 7 jours, c'est très drôle. Que viennent faire là-dedans cette histoire des 30 chemises? Samson dit à celui qui trouvera l'énigme, je lui donnerai 30 chemises. Sinon, c'est vous qui me donnerez 30 chemises. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire de chemise? Et quand je vois des histoires comme ça, je me dis qu'il doit y avoir, quelque chose là-dedans, quelque chose là-dessous. Parce que la Bible n'est jamais anecdotique. Et je ne crois pas que la Bible se contente de nous raconter des histoires un petit peu distrayantes pour noces et banquets de fin de mariage où on propose des devinettes aux gens avec des lots plus ou moins absurdes que l'on pourrait gagner. Je pense qu'il y a là quelque chose nécessairement à comprendre et à interpréter. Avec en plus cette clé de lecture qui est toujours la même dans la Bible, c'est que je suis persuadé que tout passage de l'Écriture nous concerne, nous, aujourd'hui et maintenant. Et donc voilà la question, en quoi cette énigme vous concerne, vous, et en quoi sa réponse vous peut vous permettre, vous, de gagner 30 chemises, même aujourd'hui. Alors une piste peut être trouvée, en pensant qu'il s'agit là d'une allusion à l'histoire dont il est question en ce moment, dans le livre des Juges. Vous avez vu que Samson voulait aller prendre une épouse dans le peuple des ennemis, chez les Philistins, qui étaient les méchants de l'époque, si vous voulez. Et ce choix était évidemment extrêmement contesté, comme nous l'avons entendu, par ses parents en particulier. Et peut-être que Samson voulait simplement dire que on peut trouver de la douceur même dans un peuple qui est pourtant le peuple dévorant de son propre peuple. Et donc les Philistins qui sont ceux qui mangent, il veut dire même dans ceux qui mangent, je peux trouver de la douceur d'une épouse. C'est possible qu'il ait voulu dire cela. Mais là encore, ça ne me satisfait pas entièrement comme solution. Parce que d'abord, il n'est plus du tout fait allusion à cette histoire d'épouse prise chez les Philistins. Il semble que cela ne fasse plus débat dans cette histoire. Et d'autre part, l'exemple semblerait assez mal choisi, parce que finalement cette épouse va se révéler extrêmement désagréable, pénible, va le trahir, et donc finalement son mariage va tourner au fiasco. Et je trouve que donc c'est un plutôt mauvais exemple, une mauvaise illustration de l'énigme, si jamais ça n'était que cela. Mais il faut se souvenir que, d'après le verset 4, quand on lit ce texte donc de Juges 13, bien 14, de près, on se rend compte que ce choix qu'avait fait Samson d'aller chercher une épouse chez les Philistins n'était pas une lubie de sa part, mais d'après le texte, c'était une volonté explicite de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait dit à Samson, « Il faut que tu ailles prendre une épouse chez les Philistins ». Et donc, alors qu'ils étaient en guerre contre un peuple hostile qui était les Philistins, Dieu demande à Samson d'aller chercher de la douceur précisément chez les ennemis. Je ne dis pas que c'est si bien marché que cela, mais en tout cas, je crois que dans les principes, dans le principe, dans les prémices, c'était quelque chose d'explicitement voulu par Dieu et quelque chose d'extrêmement bon. Alors oui, effectivement, l'histoire montrera que ce n'est pas si simple, mais je pense qu'il y a là quand même quelque chose de très essentiel. C'est qu'avec l'aide de Dieu, nous sommes invités à aller au-delà de nos étroitesses d'esprit, à briser, je dirais, nos intégrismes et nos craintes, aller au-delà des hostilités que nous pouvons avoir vis-à-vis des uns des autres, pour aller vers eux et pour essayer de trouver chez eux eh bien, le meilleur possible et pour y trouver du bon et de la douceur. Et d'une certaine manière, cette démarche de Samson est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous rappellerai simplement qu'une chose, c'est que le XXe siècle a mis, je dirais, 50 ans à découvrir cette chose-là. Si l'on se souvient, après la guerre de 14, les Allemands vaincus, les Français ou les Alliés qui se disent « Ah ah, eh bien, puisqu'ils ont vaincu, nous allons les écraser, ces méchants Allemands qui ont osé venir nous attaquer, etc. » Et cette espèce d'esprit de revanche, je dirais même avec une victoire, n'a donné qu'une chose, eh bien c'est la Seconde Guerre mondiale en 1939. Et après la guerre de 1940, il y a eu une autre attitude, c'était de se dire si on continue comme ça, ce jeu finalement de victoire, de vainqueur et de vaincu, nous irons de guerre mondiale en guerre mondiale jusqu'à l'extinction de l'humanité. Il n'y a qu'une voie possible, c'est de faire des Allemands nos amis et de fraterniser avec eux. Et c'est à partir de là qu'ont commencé les amitiés franco-allemandes et tout ce travail, je dirais, de fraternisation et d'un rapport tout à fait différent avec l'ennemi qui a peut-être permis effectivement d'aller dans un autre sens et de créer quelque chose qui peut ressembler à une Europe. En tous les cas, je pense qu'il y a là quelque chose de très important d'arriver à dépasser les jugements à l'emporte-pièce que nous avons et d'être capable d'aller chercher même chez son ennemi ce qu'il peut y avoir de bon et d'être capable d'aller faire un banquet et de manger à la table de ses propres ennemis. Il est possible, je crois, de briser le cercle vicieux de la haine, de la violence et de l'indifférence en allant, avec l'aide de Dieu, chercher chez l'autre la meilleure part de douceur et de bonté qui s'y trouve pour s'en repaître. Donc oui, même chez celui qui mange, même chez le fort, je pourrais trouver de la douceur et je pourrais trouver quelque chose qui se mange. Et c'est ce à quoi je suis appelé. Sans doute même devons-nous, je crois, généraliser cette idée, en pensant qu'il ne s'agit pas là simplement de relations, je dirais, entre les peuples ou interpersonnelles par rapport à nos ennemis, mais qu'il s'agit aussi peut-être d'évoquer des événements qui nous arrivent. Il arrive en effet que nous soyons confrontés à des épreuves, à des situations qui nous menacent, ou d'une certaine manière à des événements qui menacent de nous déchirer, de nous détruire, de nous avaler tout cru, dirais-je, comme le lion. Et comme Samson, qui est confronté au lion rugissant, nous sommes finalement tous un petit peu comme cela, en menant notre vie et sur notre chemin, même pour aller chercher une épouse ou le bonheur, sur notre route, nous tombons sur des obstacles pas toujours faciles à vaincre. Et là, nous avons dans ce texte, je crois, très précisément la démonstration de ce que Dieu peut faire dans notre vie et de ce qu'il nous invite à faire de ces obstacles. La première chose, c'est qu'il va donner, et Dieu va donner à Samson, une force extraordinaire qui lui permettra, nous dit le texte, de vaincre à main nue ce lion rugissant. Vaincre à main nue cette épreuve qui s'imposait à lui. Et je crois que ça c'est vrai, première chose essentielle, bien connue mais essentielle. Dieu peut nous rendre plus que vainqueurs dans nos combats. Avec son aide et avec lui, nous pouvons surmonter des tas de choses, des tas d'obstacles dont nous aurions pu croire qu'ils étaient insupportables et infranchissables pour nous. Ce qui est vrai, c'est que cette force ne lui est pas venue d'un coup. Genre, Samson n'était pas un type normal qui tout à coup rencontre un lion, et puis il prie Dieu et boum, il vint le lion. Le texte nous dit bien, Samson a été consacré à Dieu comme Nazir dès avant sa naissance. Ça veut dire que ça faisait des décennies que Samson se consacrait à Dieu, vivait pour Dieu, faisait tout dans la quête, dans la présence de Dieu, sans que cela lui serve à grand-chose. Alors bon, c'est vrai, c'est un cas extrême. Nous ne sommes peut-être pas consacrés à Dieu depuis avant notre naissance. Mais il est certain que, je dirais, au moment où l'on a à affronter une difficulté, je pense que nous sommes quand même riches de tout le travail de consécration que nous avons fait, peut-être apparemment pour rien, dans les années qui ont précédé. C'est le temps que nous avons consacré à Dieu, consacré aux autres, pendant tout ce qui a précédé dans notre vie, qui nous remplit d'une force extraordinaire et qui peut nous permettre de vaincre le lion rugissant le jour où il nous attaque. Le texte nous dit ensuite que Samson a tué le lion. Oui, mais il ne nous dit pas ça exactement. On nous dit que Samson, il a fendu le lion en deux, qu'il l'a déchiré en deux. J'aime beaucoup cette image aussi, parce que je crois que c'est peut-être comme cela que Dieu nous permet d'anéantir les épreuves qui nous assaillent, selon le bon principe de diviser pour mieux régner. Je pense que c'est comme ça que notre recherche spirituelle peut nous aider. Elle peut nous aider parce qu'elle peut nous aider à relativiser bien des choses, à briser l'aspect monolithique de ce qui nous éprouve, en le morcelant, en fendillant l'obstacle pour que nous puissions avoir prise sur lui. L'obstacle n'est pas enlevé, n'est pas ôté, il ne disparaît pas, mais il devient inoffensif parce qu'on arrive, je dirais, à le gérer par morceaux, en quelque sorte. Et Samson, finalement, arrive à continuer son chemin, et c'est bien ça l'essentiel. L'histoire continue. Samson est donc libéré. Il va pouvoir vaquer à sa propre vie, ce qui est fondamental, mais il ne va pas en rester là. Parce que je crois qu'effectivement, il ne suffit pas d'échapper au mal. Encore faut-il, c'est ce qu'il va réussir à faire, c'est le stade d'après, à trouver dans le mal du positif. Et ça n'est pas si simple. Et pour cela, il va faire un crochet pour revoir la carcasse du lion. Ça, c'est très intéressant. C'est certainement une bonne démarche. Revisiter avec le recul ce qui nous a menacé un temps pour essayer de le comprendre, pour en tirer des leçons et peut-être pour voir les choses autrement. Et là se trouve un autre miracle. Le premier, c'est donc qu'il avait vaincu le lion. Cet autre miracle, des abeilles s'étaient installées dans la carcasse du lion et avaient produit du miel. Ça, c'est une chose étonnante. C'est un miracle, parce que jamais les abeilles ne s'installent dans des carcasses d'animaux morts. Jamais des abeilles ne se mettent dans des charognes. Donc il y a là, disent tous les commentaires juifs du Talmud et du Midrash, disent, c'est le deuxième miracle, c'est ça. En tout cas, il a fallu que la carcasse soit totalement nettoyée. Je dirais qu'elle soit totalement sèche, qu'il n'y ait plus que des os totalement desséchés. Et là aussi, c'est curieux. Là aussi, c'est curieux parce que le texte nous dit que Samson est revenu quelques jours après seulement. Alors le Midrash nous dit, il y a un troisième miracle. C'est que la carcasse s'est nettoyée encore plus vite que prévu. Ou alors d'autres disent, ce n'était pas quelques jours après, ça devait être un mois après, pour que la carcasse ait eu le temps de sécher. On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il faut croire, c'est que pour pouvoir tirer quelque chose de positif, quand on revisite, je dirais, son passé ou ses épreuves, il faut que suffisamment de temps y soit passé. Sinon, ce n'est rien d'autre que d'aller remettre son nez dans une charogne puante. Et donc le temps est là quelque chose d'essentiel. Le temps est certainement quelque chose qui peut aider, je dirais, à nettoyer un peu tout cela, à nettoyer le cadavre et à faire en sorte que les choses sentent un petit peu moins mauvais. Et ce n'est que lorsque les choses ont suffisamment séché, je dirais, qu'on peut se permettre d'aller les revisiter. Avant, il n'est pas certain que cela soit une bonne chose. Ou alors, si c'est un miracle, de penser que justement, avec l'aide de Dieu, on peut, quand on va revisiter des choses passées, je dirais les revisiter sans qu'elles soient nocives, nauséabondes ou puantes, mais justement, et qu'elles soient propres et sèches en quelque sorte. Bon, dans tous les cas, ce qui est extraordinaire, c'est effectivement ce que dit le texte, c'est que de celui qui aurait dû le manger, finalement va sortir ce qui va le nourrir. Ce qui était à la base une épreuve peut devenir, avec l'aide de Dieu, une force, une source de vie, de douceur, et ça c'est une transformation extraordinaire. De même, dirais-je, avec l'aide du Christ, l'eau de la mer qui menaçait d'engloutir Pierre quand il est dans sa barque va devenir ce qui le soutient et ce qui le porte quand Jésus l'aidera à marcher sur l'eau. Il y a là un renversement assez étonnant, finalement, d'arriver à transformer le mal en bien, transformer la mort en vie et de faire en sorte que l'épreuve qui risquait de nous détruire devient au contraire ce qui peut être source pour nous de vie. Alors vous disais-je, ça c'est quelque chose qui n'est pas simple. Le premier point, je vous le répète parce que je crois qu'il est important, c'est l'importance du temps. Il faut un certain temps pour que la charogne se soit nettoyée et que les abeilles aient pu s'y mettre dedans. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu, et c'est là un autre miracle, que des abeilles s'y installent pour y faire leur nid. S'il n'y avait pas eu ces abeilles, dans le meilleur cas, la carcasse aurait cessé de sentir mauvais, elle serait devenue inoffensive. C'est ce que nous souhaitons de nos vieilles épreuves passées, qu'elles nous fichent la paix, autrement dit, mais elles n'auraient pas donné naissance à de la nourriture exquise et douce. Alors, pour comprendre ce miracle, il faut savoir, ça sera ma petite leçon d'hébreu du jour, que le mot abeille, en hébreu, ça se dit Déborah, qui est le nom d'une des filles de Lisbeth, notre organiste d'ailleurs, que je salue. Déborah, l'abeille, ça vient de Dabar, en hébreu, qui est la parole. C'est-à-dire que Déborah, c'est le féminin de la parole. Et donc, l'abeille, si vous voulez, est dit en hébreu que par le même mot que la parole elle-même. Ça devient intéressant. Ça veut dire que ce cadavre de lion était peuplé de paroles, de petites paroles, de mots. Et ça me semble passionnant, parce que c'est peut-être ça l'essentiel. Nous devons nourrir de la parole de Dieu, enrober de paroles de Dieu, enrober ou alors de paroles tout court, les événements de notre existence, et que c'est cette parole qui peut, je dirais, transformer les choses et nous aider à trouver le bien dans ce qui nous semblait mal. Et d'autre part, Déborah, c'est encore autre chose dans la Bible, c'est, je crois, la première nourrice citée dans toute l'Écriture. Voilà. Donc Déborah, c'est la première nourrice citée dans la Bible. Donc oui, nous sommes en terrain connu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'elle est dans notre bouche douce comme du miel, comme dit le prophète Ézéchiel, et comme le dira encore l'Apocalypse. Toute difficulté vaincue, toute épreuve surmontée, peut devenir source de vie et de douceur, pour peu que nous la rendions revisitée, habité par un essaim d'abeilles ou par une communauté de paroles divines. Nous pourrions même dire que ce sont peut-être dans ces failles de nos existences, dans ces difficultés de notre propre vie, que justement peut trouver une place pour que la parole divine puisse venir résider. Si nous ne sommes qu'une sorte de perfection, de bonheur et de tranquillité, où la parole de Dieu va-t-elle nicher? C'est dans ces failles, dans ces carcasses finalement, dans ces obstacles, dans ces difficultés que la parole peut venir habiter parce que ça crée un espace en nous, ça crée un besoin de parole, un désir de quelque chose. Et c'est là qu'il y a une prise possible pour la parole. Et quand la parole de Dieu s'installe en nous, alors en découlent des quantités de miel, le miel qui est pour pour la Bible l'image de la douceur et l'image de la perfection de la présence de Dieu comme dans la terre promise où coule le lait et le miel. Bon, mais les choses ne sont pas toujours si simples. Parce que là encore, il faut s'imaginer Samson. Il voit le cadavre du lion, des abeilles dedans, plein de rayons de miel, tout ça est formidable. Le texte nous dit qu'il prend le miel et qu'il s'en nourrit. Eh bien, essayez, tiens, un jour, si vous trouvez un essaim d'abeilles, plein de rayons de miel dans un arbre, essayez de manger le miel. Mais c'est drôlement difficile, je vais vous le dire. Il faut être prêt à s'exposer à bien des piqûres, parce que les abeilles ne vont pas se laisser faire. Et donc, je pense que les choses n'ont pas dû être si simples, là encore, pour Samson. Il a dû se faire piquer, sûrement. Et d'ailleurs, les abeilles, dans la Bible, sont un symbole très ambigu. Parce qu'elles sont à la fois citées pour la douceur du miel qu'elles produisent, mais aussi parfois elles sont citées pour leur aspect rebutant, quand elles sont comme une nuée piquante et blessante. Et cette image est très juste, je crois, très réaliste, parce que la parole de Dieu, voyez-vous, ce n'est pas une sorte de sirop sucré, facile et avalé, de sirop lénifiant qui vous donne de voir la vie en rose et de supporter tous les malheurs, etc. La parole de Dieu, la Bible elle-même, ça n'est pas une chose simple, c'est une parole piquante, c'est une parole rebutante, c'est une parole contrariante, c'est une parole difficile, c'est une parole qui nous aiguillonne, qui est pas commode finalement. Et peut-être, juste, j'aime cette image, c'est que pour en trouver la douceur qui en coule, il faut être prêt à s'exposer à la difficulté de cette parole. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Pour en tirer le bon miel, il faut aller se bagarrer avec elle. Et pour cela, il faut le faire sans se décourager, il faut persévérer, en sachant que c'est justement peut-être dans ce combat, finalement, que nous pourrons sortir bénis, comme Jacob qui se bagarre avec l'ange et qui sort béni mais blessé au talon. Je crois que le contact avec la parole de Dieu est de cet ordre-là. Il faut être prêt à trouver dans cette parole non seulement la douceur, mais aussi ce qu'il y a d'amer. De nombreux passages sont comme ça. Dans ce passage d'Ézéchiel, déjà cité dans l'Apocalypse, on dit « je mange la parole de la Bible et dans ma bouche elle est doux comme du miel, mais dans mes entrailles elle est amère ». Et je pense que la parole, elle est comme ça. Et si vous ne découvrez pas la difficulté de la parole, eh bien vous n'en trouverez pas non plus la douceur. Et puis de même, continuons l'image, tiens, mettons qu'il arrive à éviter les piqûres, il se trouve avec un rayon, mais il ne faut pas tout manger d'un coup, il ne faut pas être idiot non plus, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas tout manger, le couvain, les œufs, la cire, etc., ce n'est pas bon. Il faut presser, séparer, prendre le meilleur, se nourrir du meilleur et laisser de côté le moins bon. Je crois que dans notre lecture de l'Écriture, c'est la même chose. Il ne faut pas tout prendre au même niveau, il ne faut pas tout prendre au premier degré, il ne faut pas tout lire en se disant « Ah ben oui, c'est bon, c'est vrai, c'est beau, il faut le croire ». Il faut lire, et puis il faut prendre ce qui est nourrissant, et puis ce qui ne vous nourrit pas, laissez-le de côté pour plus tard. Peut-être que vous pourrez en faire quelque chose, mais plus tard. Et je continue. Samson, il faut lire les textes de près. Que fait Samson ? On nous dit qu'il le mangea, mais qu'il le mangea en route. Ça aussi, c'est extraordinaire. Parce qu'il aurait pu faire une orgie de miel. C'est pas ce qu'il fait. Il prend le miel et il le mange en route. Là encore, il y a une vision extrêmement, je dirais, juste, je crois, de l'utilisation de cette parole de Dieu. On n'est pas là pour se goinfrer de prière, se goinfrer de présence de Dieu, se goinfrer de lecture, de psaumes et de cantiques, et en restant sur place. Mais tout cela, ce sont des choses pour la route. Et nous devons être en marche dans notre route, pour aller vers les autres, et même pour aller vers nos ennemis. Et c'est dans cette route, sur ce chemin, que nous pouvons nous nourrir de ces abeilles de la parole. Parce qu'elles ne sont là pour nous nourrir sur notre chemin, pour que nous soyons en marche, et non pas simplement pour nous contenter et que nous restions sans bouger au même endroit grâce à cette espèce de confort que nous donnerait la parole de Dieu. Et puis continuons encore. Samson, il a ce miel, et qu'est-ce qu'il en fait ? Il en donne à son père et à sa mère. Il comprend que cette douceur de l'amour de Dieu, ce n'est pas pour sa propre consommation à lui tout seul, mais que c'est aussi pour que nous la redonnions aux autres. Et puis finalement, je terminerai par l'enjeu de l'énigme. C'est qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans ? Oui, effectivement, que le lion ne fasse plus de mal, que Samson trouve du miel, tout ça c'est très bien. Mais quand on a compris cela, qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, ce qu'on gagne, c'est 30 chemises. Bon, pourquoi donc ? Eh bien, parce que je crois que la chemise, le vêtement, c'est ce qui nous couvre, ce qui nous protège. La chemise ou le vêtement, c'est ce qui masque la honte de notre imperfection et de nos erreurs. Et je crois que là, ça s'éclaire bien dans le contexte de l'interprétation que nous en avons trouvée. C'est que finalement, ce dont il est question, c'est de savoir comment, justement, Dieu peut nous protéger. Le 30, bon, le 3, c'est le nombre de Dieu, c'est la Trinité, 30, c'est pareil, donc c'est-à-dire que ce sont des chemises divines. C'est-à-dire que comprendre cette histoire de Samson, c'est de trouver comment nous pouvons être vêtus par Dieu, et comment nous pouvons être à la fois protégés par Dieu, et comment Dieu peut mettre sur nous une chemise qui est à la fois une protection et qui nous permette de ne pas être vulnérables, et aussi quelque chose qui couvre notre propre imperfection et qui nous rend plus beau et plus grand que nature. Bien sûr, on peut être tenté de faire comme les Philistins et de se dire, bon ben moi ces chemises, je vais les gagner sans l'aide de Dieu, par la ruse et la tromperie. Et donc oui, je vais colmater mon existence. Je suis imparfait, mais ça fait rien, je vais essayer de ne pas m'en rendre compte. Je suis faible, mais je vais me protéger par la tromperie, par le mensonge, par la dissimulation, par la trahison. Et en fait, cela ne produit rien. Oui, les Philistins vont gagner leurs 30 chemises, donc on peut très bien bricoler dans sa vie et s'en sortir, mais en même temps, cela va générer des tas de morts, je crois, dans cette histoire. C'est-à-dire que cela ne conduit finalement qu'à la violence. Et puis il y a encore une chose essentielle que cette énigme nous enseigne. Quand il est écrit que Samson trouva un essaim d'abeilles dans le corps du lion, le mot utilisé là pour dire essaim est assez curieux. Parce que normalement, il n'est jamais utilisé pour désigner cette chose-là. C'est le mot qui est utilisé normalement pour désigner une communauté humaine. Une communauté de gens, quoi, de gens comme vous et moi. Et donc, ce que Samson va trouver dans le cadavre du lion, ça peut être vu comme une communauté de paroles, un essaim d'abeilles. On pourrait le traduire comme une communauté de paroles. Et comme Déborah, je vous l'ai dit, est aussi un nom propre, c'est la nourrice, on peut se demander si nous ne sommes pas invités nous-mêmes, après nous être repus de la douceur, de la grâce de Dieu, à devenir nous-mêmes une communauté de paroles, c'est-à-dire une église, ce que nous sommes là, une église nourrie de la parole de Dieu, pour habiter dans ce vieux monde plein de violence, plein de haine, plein d'égoïsme, et pour y apporter un peu de douceur. Cette douceur qui est celle de la grâce, du pardon, du service, douceur qui pourra opérer l'un de ces retournements essentiels qui peut donner naissance à la vie pleine de douceur que Dieu veut pour nous et pour le monde. Amen.